Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence sur la présentation des résultats du troisième trimestre du groupe M6. Je précise que tous les participants sont actuellement en écoute silencieuse et qu'une séance de questions-réponses sera conduite à l'issue de cette présentation. Pour votre information, la conférence est enregistrée. À présent, je donne la parole à Monsieur Nicolas de Tabernost, président du directoire, et Monsieur Jérôme Lefébure, directeur financier et membre du directoire. Messieurs, c'est à vous.
Bonsoir à tous. Merci d'être présent pour cette présentation de nos résultats du T3. Je serai rapide, ainsi que Jérôme Lefébure sur nos résultats pour répondre aux questions que vous auriez à nous poser. Donc le troisième trimestre 2022 se caractérise par plusieurs choses, hein, des résultats et notamment un EBITDA relativement solide, puisque nous avons fait hors éléments non récurrents, les éléments non récurrents, c'est-à-dire les aides d'État dont nous avons bénéficié l'année dernière et les charges liées au projet de fusion abandonné M6-TF1. L'EBITDA consolidé s'élève donc à 57,2 millions d'euros contre 58,7 millions d'euros au T3 2021 et 34,2 millions d'euros au T3 2019, qui constitue plutôt l'année de référence en ce qui concerne les comparables. La baisse du chiffre d'affaires, qui a baissé de 5,8% à 290,1 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2021, cette baisse du chiffre d'affaires a été compensée par des économies de coûts de programme, notamment en télévision, l'optimisation des coûts de radio et la contribution de Stéphane Plaza Immobilier à l'EBITDA du groupe au T3 qui n'était pas en 2021. Hors éléments non récurrents, donc le groupe M6 a dégagé une marge opérationnelle en croissance de plus 0,7 points avec près de 20%, 19,7% exactement, au troisième trimestre de cette année. Si on regarde maintenant les 9 premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires du groupe M6 aura été stable à 954 millions d'euros. La hausse des revenus non publicitaires, environ 11%, est contrebalancée par le repli des recettes publicitaires, moins 2,4% sur les 9 premiers mois de l'année. À fin septembre 2022, l'EBITDA consolidé hors éléments non récurrents, tels que je vous ai cité tout à l'heure, se monte à 222,7 millions d'euros et progresse de 5,5% sur un an, qui reflète ainsi la flexibilité du groupe dans la gestion de ses coûts, les synergies qui ont été développées entre l'ensemble de ses antennes et la contribution de sa filiale de diversification. Avec les éléments non récurrents qui incluent les aides publiques résiduelles, plus 1,1 million d'euros versus 18,7 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année dernière, et les charges liées au projet de fusion M6-TF1, 6,9 millions d'euros pour ces 9 premiers mois contre 6,2 millions d'euros à fin septembre 2021, l'EBITDA consolidé du groupe atteint 217 millions d'euros, 216,9 millions d'euros pour être précis, et la marge opérationnelle du groupe s'établit à 23,3% hors éléments non récurrents et progresse de plus 1,2 points en un an. Sur le trimestre, il a été marqué par plusieurs choses, une baisse du chiffre d'affaires télévision d'environ 10%, 9,9% pour être précis. Cette baisse du chiffre d'affaires télévision a plusieurs origines. Premièrement, un mauvais été en juillet et août, comme je l'avais laissé entendre lors de la présentation des résultats semestriels. Cet mauvais été a été notamment dû à des raisons à un effet de base, puisque nous avions l'Euro 2021 l'année dernière, et notamment la finale, hein, souvenez-vous. Donc, les trois matchs avaient rapporté un important chiffre d'affaires en effet de base, et nous avons eu des difficultés sur l'été dans le marché. Le mois de septembre s'est mieux comporté, et j'en viendrai aux prévisions sur le dernier trimestre tout à l'heure. Parallèlement, la radio a fait plutôt un trimestre correct en chiffre d'affaires publicitaire, et le digital a eu également une croissance qui a permis de limiter la baisse publicitaire à 8,2% sur ce trimestre. Donc, nous avons eu un chiffre d'affaires en baisse sur ce trimestre, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, compensé par des économies de charges, ce qui a permis donc de maintenir un résultat opérationnel supérieur, largement supérieur à 2019 et légèrement inférieur à 2021. Voilà ce qu'on peut dire donc en chiffres sur les 9 premiers mois de l'année et ce T3. En matière de... Maintenant, si on fait un petit focus sur l'activité du groupe. Alors, après l'échec du projet de fusion TF1-M6, le groupe, je rappelle, était resté en concurrence avec TF1 pendant toute cette période d'instruction du dossier depuis 2021 et cette grande partie de 2022. Nous avons une bonne activité antenne sur les antennes de télévision, notamment sur la chaîne M6 et principalement sur ses prime time, qui ont eu des résultats tout à fait satisfaisants. Une bonne activité en digital, vous l'avez dans le communiqué qui vous a été présenté, et une activité radio qui a permis d'être leader des radios privées sur ce segment. Donc, on le voit bien avec les contributions des diversifications qui étaient quand même assez significatives grâce notamment à la filiale Plaza Immobilier, nous avons maintenu une activité satisfaisante. Quels sont les objectifs stratégiques que nous avons pour la fin de l'année et les objectifs que nous avons pour le budget 2023? Face à une conjoncture dégradée, économique dégradée, nous avons le constat sur le T4 que nous avons eu un mois d'octobre correct sur ce T4, y compris versus 2021 qui avait été un très bon mois, je rappelle. Les mois de novembre et décembre s'annoncent plus difficiles. Il y a sans doute un effet Coupe du Monde de football qui a capté sans doute une partie des investissements. Mais nous avons une visibilité encore assez modeste sur ces deux mois. En tous les cas, il devrait être en diminution par rapport à 2021 de manière relativement significative et dans une position à peu près analogue par rapport à 2019, en légère diminution par rapport à 2019, telles que sont les prévisions que nous faisons aujourd'hui. Donc un mois d'octobre satisfaisant, un mois de novembre et un mois de décembre qui s'annoncent plus difficiles. Sur la vision 2023, c'est encore très difficile de dire quelles seront les tendances publicitaires. Nous sommes en train d'élaborer les budgets. Nous avons simplement pris un certain nombre de dispositions pour 2023. Un, optimiser le plus possible nos coûts, notamment nos coûts de programme. C'est ainsi que nous avons renoncé à certains événements sportifs comme l'équipe de France de football, puisque ceci engendrait des pertes de plus de 2 millions d'euros par match. Nous avions entre 4 et 6 matchs selon les périodes dans l'année, et donc ceci nous permet de réallouer des économies sur ces coûts de programme. Nous avons évidemment beaucoup d'ambition en matière de streaming, le développement Sisplay, nous avons lancé ce mois-ci Sisplay Max, qui est une option de ce qu'on appelle de confort pour Sisplay, permettre aux téléspectateurs. Le démarrage est très satisfaisant sur cette option qui se développera tout au long de l'année 2023. Nous aurons des réflexions à faire sur Salto en ce qui concerne le futur de Salto, et nous nous concerterons avec nos partenaires France Télévisions et TF1 pour examiner la situation actuelle de Salto qui a réalisé son plan de marche sur l'année 2022. Voilà, donc une politique ambitieuse de streaming, notamment sur la VOD. Nous avons, de ce point de vue-là, renouvelé nos accords avec Canal+, pour un accord pluriannuel à partir de l'année 2023. Donc tous nos accords de distribution sont aujourd'hui sécurisés. Une politique donc importante en ce qui concerne un développement des programmes et notamment des prime time sur l'activité M6W9 Sister. Une activité de diversification sur laquelle nous avons pris un certain nombre d'options, notamment sur les diversifications importantes que nous développerons tout au long de 2023-2024. Et nous ferons face à une situation économique que nous ne maîtrisons pas et dont nous n'avons pas encore les premiers éléments sur les premiers mois de 2023. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces résultats trimestriels, et Jérôme et moi, on est prêts à répondre à toutes les questions que vous voudriez nous poser.
Très bien, donc pour poser une question, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 du clavier de votre téléphone. La première question nous vient de la part de Monsieur Christophe Cherblanc de la compagnie de la Société Générale. Allez-y, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mes questions. J'en avais trois. La première, c'est sur les coûts de l'équipe de France. Vous avez mentionné qu'il y avait 4 à 6 matchs par an et que ça vous... Parce que c'était une perte de 2 millions. Je voulais savoir si c'était une perte au niveau de l'EBIT ou si c'était le coût qui était chargé dans les frais de programme. La deuxième question portait sur Netflix. Il y a le lancement de leur offre qui est incessant, qui est en train de se passer. Je voulais savoir un petit peu si vous aviez quelle était votre évaluation de leur offre, de la pertinence, du potentiel à terme. Et puis simultanément, si vous considériez que c'était plus une menace pour votre activité antenne ou sur potentiellement Salto et les offres de SVOD des opérateurs traditionnels. Et puis la dernière question portait sur les coûts de programme. Je reviens sur les coûts de programme sur 2022. Premier semestre, vous étiez au même niveau qu'en 2019. Compte tenu de ce que vous voyez au niveau de la top line, est-ce que c'est une hypothèse de travail qui est réaliste? Je vous étiez à peu près à 260 millions au deuxième semestre 2019. Est-ce que ça vous paraît un maximum ou quelque chose qui peut être amélioré? Merci.
Oui, merci. En ce qui concerne l'équipe de France, dont le contrat s'est arrêté cette année pour nous, le prix des matchs n'est pas disclosé, simplement la perte économique que nous avons, financière que nous avons sur ces matchs, est de l'ordre de 2 millions d'euros par match, et la différence entre son prix et la publicité que nous récoltions. À cela s'ajoute la perte que nous avons par rapport à un manque à gagner sur d'autres programmes. Donc c'est une perte supérieure à 2 millions d'euros par match. Donc nous avons considéré que c'était un élément qui était vraiment très significatif pour nous, d'autant plus que le sport en direct n'engendre pas non plus de streaming très important, et donc nous préférons consacrer ces investissements à d'autres projets. Donc nous avions en réalité 5 matchs, on a eu un de plus je crois cette année ou 2 de plus cette année de l'équipe de France, parce qu'il y avait la National League également, mais en moyenne c'était 5 matchs par an que nous diffusions sur nos antennes. Nous restons simplement sur le partage de l'Euro 2024 en matière de football, et puis nous avons également des droits mais qui sont... financièrement beaucoup plus intéressant sur W9, et qui est notamment l'Europa League et la Conference League que nous diffusons sur W9 avec des scores tout à fait satisfaisants pour les antennes et avec une bien meilleure rentabilité que celle que je vous indiquais. Nous avons également l'équipe de France féminine que nous diffusons également sur W9. Enfin, je rappelle que nous aurons, alors c'est un peu un élément exceptionnel, hein, nous aurons à partir de 2024 la finale de la Champions League, et nous espérons bien que le club parisien pourra conforter son avance dans cette compétition. Voilà en ce qui concerne le football. Sur la publicité des plateformes, c'est-à-dire de Netflix et ensuite de Disney+, je rappelle qu'Amazon fait déjà de la publicité sur ces plateformes, notamment à l'occasion justement de la diffusion de matchs de football, c'est évidemment des concurrents. Ce sont des concurrents qui ont choisi des niveaux de prix élevés, ce dont nous nous réjouissons, qui sont nettement plus élevés que les prix de la télévision traditionnelle aujourd'hui. Voilà, nous n'avons pas d'autres informations sur le marché que ce que je vous indique en termes de prix, et avec une durée relativement limitée en ce qui concerne la quantification des publicités. Je rappelle que ce sont des plateformes hybrides, donc. Partiellement SVOD, partiellement FreeVOD, mélangeant la publicité et l'abonnement. Voilà, donc ce sont des compétiteurs qui en volume, pour le moment, ont une limitation assez forte, et en prix, se sont fixés des prix relativement élevés, même très élevés, sur le marché. Donc nous allons évidemment examiner avec beaucoup d'attention le marché, et nous serons compétiteurs, non pas tellement sur... le volume des services SVOD ou de la consommation, nous sommes compétiteurs surtout sur le digital, c'est-à-dire toutes nos opérations de streaming et de AVOD, puisque là nous allons rentrer en compétition avec des prix relativement importants sur de la publicité adressée sur nos différents services. En ce qui concerne les coûts de programme, sur l'ensemble de l'année, ils seront en réduction par rapport à l'année dernière d'environ 4% par rapport à l'année précédente en ce qui concerne la télévision.
Merci.
La question suivante nous vient de la part de Monsieur Julien Roch de la compagnie de la société Barclays. Allez-y, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Je m'excuse si je pose une question dont vous avez déjà répondu ou que vous l'avez donnée dans votre introduction, mais j'ai attendu à peu près un quart d'heure qu'un opérateur prenne mon appel, donc j'ai raté le début. Ma première question, c'est sur les tendances publicitaires quatrième trimestre. Ce que vous pouvez nous dire là-dessus, et également, même si c'est il est tôt, les discussions que vous avez avec les agences de pub ou les plus gros annonceurs pour l'année prochaine, donc la pub au T4 et pour l'année prochaine. La deuxième question sur la publicité des plateformes, donc vous avez dit que les prix étaient élevés, en effet ils sont supérieurs dans tous les pays à l'EVOD et il y a que 4 minutes, mais est-ce que vous avez fait des estimations de ce que ça pourrait prendre pour le marché, et puis également d'après vous est-ce que l'argent viendrait plutôt de la publicité ciblée qui existe digitale comme Facebook ou Google, ou viendrait de la télévision. Voilà mes deux questions, merci.
Oui, alors sur la publicité au T4, ce que j'indiquais, c'est que le mois d'octobre était satisfaisant, notamment comparativement à 2021 qui était lui-même un bon mois. Et que les mois de novembre et décembre s'annoncent plus difficiles, sans doute avec un effet Coupe du Monde, puisqu'il doit y avoir une concentration des investissements sur la Coupe du Monde, dans cette période-là, hein, je rappelle. Voilà, donc un T4 pardon, dont il m'est difficile de vous donner une prévision précise, parce que le T4 n'est évidemment pas fini, mais ce sera certainement un T4 en recul en ce qui concerne nos activités, par rapport au T4, en tous les cas 2021, et nous espérons avoir un niveau qui se rapproche de 2019, qui est quand même notre année de référence, hein, en ce qui concerne, parce que 2021, je rappelle que ça avait été très booming après confinement, comme dans beaucoup de secteurs, donc notre année de référence est plutôt 2019 sur ce point-là. En ce qui concerne les plateformes, les tarifs sont évidemment très élevés, hein, par rapport à c'est la publicité adressée. Nous sommes évidemment en concurrence avec ces plateformes sur la publicité digitale, principalement sur la publicité digitale, la partie de notre publicité. Après, nous n'avons pas d'indication à ce stade de la part des agences et des clients sur la part d'investissement qu'ils consacreraient. J'imagine qu'il y a un certain nombre de clients qui vont tester, qui vont regarder le ROI qu'ils ont sur ces plateformes et confirmeront ou non leurs investissements sur 2023. En tous les cas, c'est un univers de concurrence qui est plutôt aujourd'hui vers de la publicité ciblée que de la mass market, hein, donc plutôt en ce qui concerne les activités digitales et notamment les réseaux sociaux. Vous avez d'ailleurs vu aux États-Unis aujourd'hui un reflux quand même sur certains des réseaux sociaux qui sont en difficulté. Nous sommes évidemment vigilants sur cette nouvelle concurrence, sachant que il y aura une montée en charge qui s'opérera tout au long de l'année 2023 et que je pense pas qu'il y ait une concurrence extrêmement très forte pour l'année 2023 en termes de volumétrie, en ce qui concerne.
Merci.
Nous n'avons plus de questions dans la file d'attente. Donc, dernier appel, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier, s'il vous plaît. Merci.
Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu une difficulté technique de la part de l'opérateur qui nous a... J'ai l'impression qu'il y a eu une difficulté technique sur l'opérateur qui a eu lieu et que certains n'ont pas été présents au début de la conférence. Je l'aurais dit simplement très simplement sur les chiffres clés, vous l'avez dans le communiqué du T3, et que nous avons maintenu une marge opérationnelle de près de 20% sur le T3. Nous avons une marge opérationnelle qui augmente hors éléments non récurrents sur les 9 premiers mois de l'année, et nous avons donc, nous visons par rapport aux éventuelles difficultés du marché à une flexibilité de nos coûts, et nous avons eu de très bonnes performances en ce qui concerne nos antennes, que ce soit les antennes radio ou les antennes digitales ou la télévision et le digital, ce qui nous a permis de maintenir des parts de marché dans l'univers de concurrence où nous situons. Voilà, donc c'est une année de transition d'une certaine façon, mais lorsqu'on la compare à 2019, c'est une année qui devrait se terminer correctement par rapport à l'année de référence 2019. Voilà.
Il reste une question, je crois.
Il reste peut-être une question.
Évidemment, bien entendu, oui. Donc nous avons Monsieur Christophe Cherblanc de la Société Générale. Allez-y, c'est à vous.
Oui, j'en profite parce qu'effectivement on a l'air d'être pas très nombreux sur le call. J'avais deux petites questions complémentaires. La première, c'était sur la contribution de Stéphane Plaza. Donc l'effet de consolidation, si vous pouviez, Jérôme avait un chiffre un petit peu plus précis. Et puis une deuxième question qu'on m'a posée plusieurs fois, ce qui est sur le management. On avait compris que vous resteriez pour superviser le projet de fusion avec TF1 qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc qu'est-ce que vous avez comme perspective ou comme horizon en termes de gouvernance?
Sur Stéphane Plaza, comme vous l'avez dans le communiqué, la consolidation de Stéphane Plaza apporte 7 millions de chiffres d'affaires au T3 2022. Et c'est une contribution en EBITDA qui est significative dans la croissance de l'EBITDA des diversifications, puisqu'il passe de 6,4 à 14,4. Et sur cette différence, l'essentiel s'explique par Stéphane Plaza.
En ce qui concerne la gouvernance de la société, après deux ans, d'instruction du dossier de projet de fusion qui n'a pas abouti, les actionnaires du conseil de surveillance ont manifesté le souhait d'avoir une stabilité pendant une certaine période sur l'activité de la société, dans lequel, comme je l'avais indiqué à la sortie du projet de fusion, il y aura des partenariats que la société engagera pour développer son activité. Et donc, cette période n'est pas propice à des changements rapides de gouvernance. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire à ce stade.
Ok, merci beaucoup.
Nous n'avons plus de questions. Je vais donc redonner la parole à votre hôte pour conclure cette présentation.
Merci beaucoup. Et donc, on vous donne rendez-vous pour les résultats complets de 2022 et les perspectives 2023, en espérant qu'elles ne soient pas en dépression économique. Voilà. À très vite. Merci à tous.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter. Quant aux autres, veuillez rester connectés, s'il vous plaît.